Le journal, présenté par Adrien Toffolet.
Bonjour à toutes et à tous. Washington donne des armes à l'Ukraine, le Kremlin tire la sonnette d'alarme, tout comme la France et l'Allemagne. Depuis l'annexion de la Crimée en 2014, la situation sur place est instable. Les cessez-le-feu sont régulièrement brisés. Moscou redoute un bain de sang, nous expliquera notre correspondant en Russie. En Israël, de nouvelles manifestations de colère contre la corruption dans tout le pays. Benjamin Netanyahou est appelé à démissionner. Depuis qu'il est touché par des affaires, il n'est pas prêt de partir, selon ses dires. Les manifestants non plus. Marine Blahovic en a rencontré à Tel Aviv. Après la remise en ordre du Nord Sinaï par les raids des forces armées égyptiennes suite à l'attentat du mois de novembre, le président Al-Sisi veut lancer un vaste plan de développement urbain, éclairage depuis le Caire de François Umfer Khatadji. Et puis 28 ans après le massacre de Tiananmen, un rapport de l'ambassadeur britannique à Pékin à l'époque vient donner un autre bilan humain que celui des autorités chinoises, précision d'Angélique Forger à Shanghai. C'est un conflit qui s'est fait discret ces derniers temps, mais qui ne cesse de s'alimenter depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en mars 2014. Ukrainiens et Russes sont dans une impasse et la décision vendredi de Washington de livrer des armes aux autorités ukrainiennes n'arrange rien. Décision dangereuse, réagit ce matin Moscou, qui craint l'avènement d'un nouveau bain de sang dans le sud-est du pays. Depuis quelques semaines, les accrochages s'y sont multipliés, entamant fortement la confiance que Kiev et Moscou pouvaient avoir l'un dans l'autre. À Moscou, la correspondance de Jean Didier Revoin.
Depuis quelques semaines, les violations du cessez-le-feu entre les troupes ukrainiennes et les séparatistes du Donbass sont de plus en plus fréquentes. Quelques heures après l'entrée en vigueur d'une nouvelle trêve, samedi, les Ukrainiens accusaient les séparatistes de tirer aux lance-grenades, ces derniers dénonçant de leur côté des tirs de mortier venus des forces ukrainiennes. Lundi dernier, Kiev annonçait la mort de 3 de ses soldats sous des tirs rebelles, alors que la Russie décidait de se retirer du centre de coordination conjoint, où avec l'Ukraine, les deux parties veillaient à la mise en œuvre des accords de Minsk et à la baisse des tensions. Pour Moscou, cette dégradation pourrait même se transformer en un nouveau bain de sang après que Washington a donné son feu vert à la vente d'armes létales aux autorités ukrainiennes. Les États-Unis ont déjà suffisamment de problèmes pour se permettre d'être impliqués dans les aventures du régime ukrainien et nous savons tous combien Kiev peut être aventureux. S'est offusqué Alexei Pushkov, l'ancien président du comité des affaires étrangères de la Douma, devenu sénateur. Concrètement, le pouvoir russe redoute que Kiev n'en profite pour faire usage de la force dans l'est du pays, précise le vice-ministre russe des affaires étrangères, Grigori Karasin. Il a par ailleurs estimé que cette décision sapait le travail de mise en œuvre des accords de Minsk, tout en soulignant que, pour le Kremlin, seul un dialogue honnête et sincère entre les belligérants était à même de résoudre ce qu'il appelle le conflit intérieur ukrainien.
Jean-Didier Revoin. Et puis la France et l'Allemagne ont réagi hier à l'annonce du département d'État américain. Ils appellent à un règlement exclusivement pacifique du conflit et dénoncent des violations du cessez-le-feu de plus en plus fréquentes et inacceptables. On reste un instant en Russie où des rassemblements sont prévus aujourd'hui dans une vingtaine de villes. Rassemblements en soutien à la candidature du principal opposant russe, Alexei Navalny, charismatique avocat et blogueur au discours anticorruption et nationaliste. Aux yeux de la commission électorale, Navalny est inéligible jusqu'en 2028 en raison d'une condamnation de justice pour détournement de fonds publics, affaire qu'il juge montée de toutes pièces. Malgré cela, il compte bien défier son adversaire Vladimir Poutine à la présidentielle de mars 2018. En Israël, si les esprits sont focalisés en ce moment sur la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale de l'État hébreu, certains, et ils sont nombreux, n'oublient pas de faire entendre leur colère sur un autre sujet, colère qui gronde de plus en plus fort contre Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien est visé depuis plusieurs mois par 2 enquêtes de corruption présumées. Il est accusé d'avoir reçu des cadeaux de plusieurs dizaines de milliers de dollars et d'avoir corrompu un grand quotidien national. Interrogé 7 fois par la police, Benjamin Netanyahou a laissé entendre dernièrement qu'il n'y aurait pas de suite, ce qui provoque la colère des Israéliens qui se mobilisent depuis des semaines contre ce qu'ils appellent la corruption du gouvernement. Hier, pour la 4e semaine consécutive, 10 000 personnes ont manifesté dans tout le pays pour demander la démission du Premier ministre. Le reportage de Marine Vlahovic à Tel Aviv.
Pancarte sur le dos, Nadav est venu en famille pour manifester sur le boulevard Rothschild au cœur de Tel Aviv. Et malgré son air placide, le quinquagénaire déborde de colère.
C'est une pancarte qui dit « Les corrompus doivent rentrer chez eux » parce que l'idée que des voleurs et des fraudeurs gouvernent le pays est absolument insupportable. Je n'en veux pas. Je veux qu'ils sortent du système politique.
Dans sa ligne de mire, Benjamin Netanyahou dit Bibi, le Premier ministre israélien, visé par 2 enquêtes de corruption présumées et qui a pourtant laissé entendre qu'il n'y aurait pas de suite, regrette Meyer.
Bibi déclare Bibi a déclaré que toutes les accusations finiront à la poubelle. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'on mette fin à cette corruption qui est trop importante en Israël et qui gangrène le régime. Il faut que ça cesse.
Les slogans s'enchaînent, mais Bibi, hors d'ici, revient comme une ritournelle. La cause de cette colère, une loi adoptée en première lecture qui vise à renforcer le secret dans les enquêtes de corruption.
C'est vraiment déprimant. Je veux vivre ma vie sans avoir à m'inquiéter pour cette démocratie qui est en train de disparaître. Je veux vivre dans un pays démocratique, pas dans une fausse démocratie.
Et les Israéliens promettent de manifester encore la semaine prochaine.
Marine Vlaovic, ce fut l'attaque la plus meurtrière de l'histoire contemporaine de l'Égypte. Le 24 novembre dernier, contre une mosquée dans le Nord Sinaï, attaque qui a fait plus de 300 morts. Le chef de l'État égyptien est contraint de réagir. Les réponses militaires n'ont pas tardé dès le lendemain de l'attentat. Mais une nouvelle phase se met désormais en place. Abdel Fattah el-Sissi entend lancer dans cette région un vaste plan de développement urbain. Projet qui reste flou pour l'instant. Au Caire, la correspondance de François Mfer Kataji.
Sommet de réagir face à la grave montée de la violence dans le Nord Sinaï, le président égyptien s'est rendu à Ismaïlia au bord du canal de Suez pour annoncer un plan de développement de près de 5 milliards d'euros. Le ministère du Logement est donc en charge de développer un grand projet urbain. La formule est floue, on ne saura rien de la nature des travaux, ni de la date de lancement ou de la zone de construction. Cette annonce survient au lendemain de la publication par Daesh d'une vidéo montrant l'attaque au mortier de l'aéroport d'El Arish, la capitale du Nord Sinaï. Un officier a été tué, deux autres blessés. Un hélicoptère de l'armée égyptienne a été partiellement détruit, mais les insurgés auraient pu frapper encore plus fort. Au même moment, les ministres de la Défense et de l'Intérieur se trouvaient aux abords de l'aéroport. Il y a un mois, 325 personnes civiles ont été tuées dans une mosquée, ce qui avait de nouveau braqué les projecteurs sur cette région en proie à des violences quasi quotidiennes entre les forces de sécurité et les insurgés islamistes. Jusqu'à présent, le président Sissi avait réagi en demandant à ses troupes d'utiliser, je cite, une force brutale et avait promis de faire cesser les violences en 3 mois. Un objectif jugé illusoire, d'autant que plusieurs observateurs estiment que la stratégie de la terre brûlée utilisée par l'armée égyptienne dans cette région, les relations entre les Bédouins et l'autorité centrale sont difficiles depuis des dizaines d'années. Cette annonce répond donc aux différents appels lancés notamment par des membres de l'opposition. Ne pas se contenter des opérations antiterroristes, mais mener des projets de développement en parallèle. Reste à savoir désormais s'il s'agit d'un effet d'annonce ou s'ils permettront effectivement à la région un meilleur accès à la santé, à l'éducation et aux services de base.
François Humfer Kataji, ce chiffre maintenant, ce chiffre qui donne le vertige, celui de la purge opérée par Recep Tayyip Erdogan en Turquie. 150 000 personnes ont été arrêtées ou limogées pour des liens présumés avec le mouvement de Fethullah Gulen, l'homme qu'Ankara rend responsable du coup d'État manqué du 15 juillet 2016. Ce matin encore, les autorités annoncent le licenciement de plus de 2700 fonctionnaires, notamment dans l'enseignement et le ministère des armées. En Chine, ce n'était pas une purge, c'était un massacre tout simplement. Pourtant, dans les mémoires, il disparaît au fil du temps. Aucune référence à Tiananmen dans les manuels d'histoire. Officiellement, quelques échauffourées tout au plus qui ont fait 200 victimes. Mais 28 ans après la répression des manifestations à Pékin, un document des archives nationales britanniques livre un récit cauchemardesque du massacre orchestré par l'armée chinoise entre le 15 avril et le 5 juin 1989 à Shanghai. La correspondance d'Angélique Forget.
Le document classé secret défense pendant plus de 28 ans vient d'être rendu public par les archives nationales britanniques. Le 5 juin 1989 au matin, au lendemain du massacre de Tiananmen, l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Pékin, Alan Donald, envoie à Londres un télégramme secret. Il raconte la violence qui s'est déchaînée dans la nuit. Les blindés ont ouvert le feu sur la foule, écrit-il. Ils ont roulé sur les corps à de nombreuses reprises avant que les restes ne soient ramassés au bulldozer. Il conclut son rapport avec ces quelques mots. Estimation minimale des morts civiles, 10 000. Sa source est un ami, un membre du Conseil d'État chinois, une personne fiable qui distingue les faits de la rumeur. 10 000 morts, c'est bien plus que les estimations officielles admises à l'époque. Elles oscillaient entre 200 morts, selon les autorités de Pékin, et quelques milliers, selon les gouvernements occidentaux. Aucun média chinois ne fait état de la publication de ce document. En Chine, il est interdit d'évoquer le massacre de Tiananmen. Toute commémoration est réprimée et cette nuit meurtrière n'a jamais été remise en cause par les dirigeants chinois.
Angélique Forget, les prévisions de Météo France pour ce dimanche. Pas de magie de Noël, un temps gris avec parfois un petit peu de pluie, du soleil du côté du sud, les températures minimales entre 0 et 8 degrés, les maximales entre 7 et 12 degrés, jusqu'à 16 sur le pourtour méditerranéen et les Pyrénées.